Les rachats d'actes sont pas mal critiqués par l'association des consommateurs à cause de ça. Elle a dit que la procédure de surendettement, enfin, elle le visait sur, enfin, ce qui l'a gêné surtout, c'est pour elle, c'était honteux. Ouais, alors que le rachat, elle a le sentiment que voilà, c'est un prêt, elle n'est pas fichée nulle part. C'est quand même une grosse différence.
C'est-à-dire qu'elle préfère sauver la face de ce côté-là et tomber dans la dépendance du mari. Oui. Alors que, elle aurait pu faire le calcul que ça lui a pas coûté tellement plus cher et qu'elle gardait sa liberté. Oui. Donc, dans les conflicting values,
Mais par contre, elle est affichée là, c'est la grosse différence.
La compagnie qui s'entend d'être mariée à l'amiable, elle paye tout avec ses procédures et lui il aide sans que ce soit officialisé par un contrat.
Là, il l'aide pas en fait.
Non, là, il a signé. Il a signé.
Il y a l'emprunteur principal et puis il y a le co-emprunteur. Et c'est pas ça, en fait, le co-emprunteur, c'est lui qui sont tous les deux égaux.
Oui, oui,
donc ça, c'est essentiel. Non, mais celle qui
ce qu'elle a dit justement, c'est que les banques essayent de faire augmenter aux gens, alors qu'en fait,
alors, ils sont emprunteurs. Le deuxième point, c'est qu'à mon avis, il y a autre chose, c'est que la commission de surendettement fait tomber sur les factures EDF, sur les factures de chauffage, tout, le téléphone, etc. Et là, si j'ai bien compris, la situation étant au départ pas connue du mari, si j'ai bien compris, apparaissait. Automatiquement, la commission de surendettement fait tomber là-dessus, en disant qu'on va essayer de regarder le revenu, le fonctionnement du ménage. Donc, de toute façon, le mari allait être
Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant sur la nature du lien qu'est-ce que c'est que ce lien. Alors, ça me fait vraiment penser à plein de trucs sur les preuves du lien, attestées du lien. Que tu dis, alors en plus, moi j'ai des expériences dans les banques, donc c'est vrai que ça m'a
fait qu'est-ce que tu peux nous raconter, ta vie?
Cohabitant, on peut, en fait, le coût pour une banque, moi j'ai la preuve que c'est pas cohabitant. Tu peux ne pas avoir la même adresse et la même résidence fiscale et être considéré comme un coût par une banque au niveau de l'emprunt. C'est vraiment, ça va plus loin encore que ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement des couples que ça n'a aucune importance en fait que tu aies la même adresse. Et moi, j'avais demandé à une banque à bon, qu'on n'a pas la même adresse, aucun problème. Il y a vraiment un problème de preuve du couple. En fait, est tellement une norme sociale que justement, dans la réalité par rapport à des preuves, c'est comme quand tu... Alors, autre exemple. Justement, il y a des cas qui l'entendent déjà.
C'est jamais écrit, apparemment.
Pas forcément à de l'habitat en commun. C'est d'autant plus vrai que, enfin, au cas des personnages, j'ai été deux fois, c'est pas que pour les banques, c'est aussi pour les logements. Je voudrais vraiment comparer avec avoir un logement. Moi, j'ai été deux fois sur un bail, avec pour un commun qui est seul et qui ne peut pas avoir un appartement seul. Et je suis
en coach.
Non, alors je suis sur le bail avec lui deux fois dessus. On n'a pas la même adresse, on n'a rien. Comme j'ai des amis, ils sont seuls avec des enfants, c'est impossible de trouver un appartement. Ça existe de plus en plus, ça. Un couple, ça rassure. Il n'y a aucun attestation de preuve de vie en commune, de rien, d'enfants partagés. Là, chacun, nos enfants. Donc, aucun problème. L'important, c'est d'arriver en couple. Donc ça, c'est vraiment un truc de norme sociale qui est où la disjonction entre la preuve, et ça, je trouve qu'il faudrait plus se mettre fin sur quel est le lien pour eux, c'est preuve du coup. Et moi, ma pratique, c'est que il y a quasiment aucun présomption de couple.
Au niveau du droit,
juste une pense qu'il faut mettre en lien ça avec comment s'administrer dans une banque des crédits, avec la logique, ça passe, ça passe.
Voilà, alors justement,
c'est après, pas du tout le réel qui veut, c'est faire des chiffres.
Oui, c'est ça, c'est
quoi? Ça, c'est le
truc. L'appartement, ils le
prennent.
Oui, ils prennent. Là aussi, j'ai pas précisé, ils prendraient la fille comme caution. Mais c'est moins fille, ou elle vient d'arriver dans la comme caution.
C'est comme venir à une autre.
Mais juste une incise là-dessus sur parce que j'ai me posé la question aussi.
La banque doit prouver qu'elle a d'abord cherché à récupérer sa dette auprès de l'emprunteur. Ce qui n'est pas le cas pour l'emprunteur, il est emprunteur. Donc c'est moins facile de récupérer auprès d'une caution que de.
Ah, c'est la procédure naturelle.
Mais
alors,
le coup,
au niveau
du droit,
alors,
là,
c'est
un problème
pour
finir. Parce que là, c'est vraiment quand même, c'est pas du bio, il n'y a pas plus de référence d'histoire. On n'a pas une bibliographie là-dessus, conséquence, c'est dommage. Même Bourdieu, je cite cet article, mais ne serait-ce que son souci sur le célibat et la condition de paysage, je trouve que ça serait vraiment à relire par rapport à ça. Et plus généralement, on a des trucs, enfin moi je pense aux articles sur les veuves de Scarlett, moi je fais pas mal de trucs sur les femmes commerçantes, et comment, par exemple, dans les commerçants, moi j'ai vraiment bien vu que la transmission de l'entreprise se fait toujours à la femme et pas chez les petits, hein, pas chez les fils ou les parents, alors que plus tu montes en grade, c'est-à-dire chez les grands bourgeois, ça se fait dans le cadre de parents-enfants. Et que cette espèce de truc est symptomatique des petits commerçants. Que ce rôle du couple dans la gestion de l'argent et du patrimoine, c'est un truc qui
il y a même des trucs sur la dette et sur la faillite qui sont intéressants. Ouais.
De revoir ça dans la famille historique, ça manque drôlement également ici. C'est important aussi pour mieux comprendre la construction de cette norme sociale et comment elle fonctionne bien. On a l'impression qu'elle n'est pas tellement dans le droit, en fait, qu'elle est vraiment dans la pratique. Quoi. Quand tu pratiques, tu sais pas, avec 33%, tu dis tout ça bien. Là aussi, je pense qu'une vue régressive permettrait de mieux comprendre comment ce chiffre se construit. C'est-à-dire que c'est vrai que ce n'est pas forcément inscrit dans le droit, mais que la pratique, ça vient aussi de l'histoire. Je trouve ça vraiment dommage que ce n'est pas du tout regardé tout ce qu'il y a là-dessus. Il y a quand même pas mal de trucs. Et notamment
sur. Je parle sur les 33%.
Je me souviens d'un problème de. J'imagine que vous l'avez vu. Toute l'enquête a été Baudelot au département de sciences sociales, à la commission sur l'environnement.
Non, il n'a jamais pu me la donner, en fait.
C'est au moment où ils ont établi cette norme de 33%, je me souviens, à la fin des années 80, et où eux, en tant que sociologues, ils essayaient de voir si c'était la bonne norme ou pas, en gros. Et tous les débats qu'il y a eu sur.
C'était déjà 33, et les banquiers qui voulaient absolument faire
de l'argent. Oui, mais je parle de la conso, pas du crédit.
Ah, c'est pas une.
Ils voulaient faire les sociétés de crédit à la consommation, c'était l'aide, etc. Pour eux, c'était 20-25, pas du crédit immobilier. Mais là, ils ont une mise en caution qui est complètement autre, en fait, ça n'a plus rien à voir avec la crédit immobilier. Mais en France, on est resté à 33, alors sur des pays comme l'Espagne, etc., on dépasse allègrement.
Alors, je confirme, effectivement, c'est bien 25% dans les années 70, puis ensuite, on remonte relativement, on monte à 30. Alors, il peut y avoir un tas d'explications, il y a incontestablement un effet concurrence, il y a sans doute un accroissement du travail des épouses, on revient sur la notion du couple, qui fait qu'on regarde en même temps, au départ, on ne regardait pas trop le disponible, on se met à regarder le disponible. Combien est-ce possible pour vivre. D'ailleurs, c'est peut-être une question qu'il faut poser dans la manière dont les dossiers sont traités quand c'est inscrit, on regarde, si on prend le conjoint, le conjoint, hein, le contrateur, on regarde son revenu et on calcule le disponible. C'est ça, tout ça qui va tout changer. Parce que si on prend la totalité des charges de ce conjoint, on saura à peu près combien il reste au couple pour lui. Alors, un couple réel, alors un couple fictif, je ne sais pas comment on fait, à multiplier les finances et multiplier ensemble, ça devient difficile. Mais on regarde le disponible, excusez-moi, et donc ce qui reste par tête, hein, puis ensuite, voilà. Alors, en mettant quand même un pourcentage par profession, parce que selon le niveau social, on sait très bien que dans un niveau social où il y a l'exemple piano, quoi qu'il arrive, il y aura l'exemple piano. Et donc, le disponible sera un peu plus faible.
Mais vous êtes d'accord que là, beaucoup, en tout cas, les charges restent dans le domaine du déclaratif. C'est-à-dire que...
Je ne veux pas juger.
C'est qu'à chaque fois, on a des trucs vraiment sur des négociations d'identité, des trucs comme ça, parce que ça reste largement dans le domaine du déclaratif. Alors là, il faut avoir des trucs. Moi, j'ai obtenu un crédit à la consommation depuis mon CSA, le coût du collaborateur, donc voilà. Je n'avais aucune fiche de salaire du on avait un conjoint, parce que ça suffisait largement, mais vous avez gagné combien de temps au siège à son
mais ce n'est pas le cas là, justement. Non, c'est pour ça que...
mais du coup, aussi, c'est question de la preuve de combien de temps, qu'est-ce que
c'est. Mais c'est pour ça que moi, j'ai confondu, et c'est intéressant, parce que effectivement, moi, j'ai confondu, j'ai mis ensemble cohabitation et normes sociales. Parce que là, de fait, ils regardent très attentivement sur tous les relevés de compte. Et donc, il y a la norme sociale, mais il faut qu'ils habitent ensemble, parce que c'est ça qui les rend solvable, qui fait baisser les charges.
C'est pour ça.
Voilà. Donc pour eux, les deux sont mélangés dans ce type de crédit-là.
Mais
ils restent la même. Mais en fait,
c'est... Et puis le moment où
le recouvrement,
alors là c'est plus complexe.
Là, il traque la trace, justement, ça sert à ça, à l'enlever, notamment, à chercher la trace de, d'autres emprunts.
Mais quand il y a des emprunts qui sont en dans d'autres banques, moi qui ai fait ça, j'ai
rompu
des
choses
totalement
bidons
parce que je ne pouvais pas, moi, dans la norme. C'est
possible de passer. Non, bien sûr, mais là, c'est facile, mais enfin là, c'est quand même, c'est pour ça que ça dure très longtemps. Non, mais
Mais
là, pour ce type de crédit, non, mais bien sûr, c'est possible aussi, mais tout leur travail, si ça dure une heure et que les gens reviennent et qu'en plus, il y a un contrôle derrière, c'est justement pour chercher ça. Ouais. Et ils sont quand même assez forts pour trouver la trace de compte par-ci, par-là.
Mais là, on est à un autre moment, parce que
En fait, il
ne
s'agit pas de leur
rater
du fric, il s'agit de voir pour les rembourser.
Ça revient peut-être un peu à ce qu'on a au début de la discussion sur la micro-histoire. Hein.
Oui.
Vous avez un cas. Et en fait, il y a une multitude, il y a différentes situations, différents types de fictives, etc. Et donc à chaque fois, je pense qu'on peut avoir quelque chose de plus différent. Les typologies dans le domaine du couple, à ce moment-là, pourraient peut-être venir de là. Voilà.
Et est-ce qu'il y a une vérification de la structure juridique du couple ?
Non, pas du tout, parce que...